Nous lisons dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, au chapitre 18. Jean 18, à partir du verset 19. Jean 18, à partir du verset 19. Il est écrit ceci. Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Non, plutôt, le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai parlé de rien en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Demande à ceux qui m'ont entendu de quoi je leur ai parlé. Voici qu'ils savent, eux, ce que moi j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, prouve ce qu'il y a de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ?» Alors Anne l'envoya lier à Caïphe, le souverain sacrificateur. Verset 28. De chez Caïphe, ils amenèrent Jésus au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux et dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le, selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je donc juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né et voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Donc on s'arrête là. Alors, au verset 22, il est écrit à ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, prouve ce qu'il y a de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ?» Et par la suite, nous voyons Pilate qui est en train de juger Jésus comme si c'était un malfaiteur. Bien-aimés, nous avons un face-à-face, un vis-à-vis. Anne d'un côté, le souverain sacrificateur, Pilate d'un côté, le gouverneur romain, et Jésus de l'autre côté. Qui est lié, c'est Jésus. Qui est rabaissé, giflé, c'est Jésus. Mais entre les deux, qui est le vrai chef, c'est Jésus aussi. C'est Jésus qui est le roi de l'univers. Mais c'est Jésus qui est giflé. C'est Jésus qui est le roi du ciel et de la terre. Mais c'est lui qui est jugé comme un vulgaire bandit. Nous devons apprendre comment Dieu fonctionne. Et nous avons un chant dans la chorale que nous chantons, « Meekness and Majesty ». humilité, docilité et majesté. Dieu fonctionne toujours avec ces deux paramètres-là, l'humilité et la majesté en même temps. La simplicité et la gloire en même temps. Il faudrait qu'on s'en habitue et qu'on fonctionne comme notre propre Père fonctionne. Les poissons respirent par les branchies, ils ne respirent pas par les poumons. Et je vois mal un poisson qui va dire « moi je vais respirer par les poumons » alors que son Père a respiré par les branchies. Donc nous, si nous sommes de Dieu, nous devons fonctionner comme lui-même Dieu fonctionne, dans la simplicité et la gloire en même temps, dans l'humilité, la docilité et la majesté en même temps, et la puissance en même temps. Jésus fonctionnait dans les deux. Dès le départ, lorsque Jésus est né, il est né dans une étable. Et il a été déposé sur une mangeoire, donc là où les animaux mangent. Mais en même temps, une étoile s'est déplacée. Toujours majesté et simplicité. Et docilité. Ce n'est pas seulement, on ne va pas dire seulement simplicité. Le mot docilité est très important. Parce que c'est une simplicité comme quelqu'un qui cède, qui obéit, qui accepte. Voilà. Il a accepté de naître dans une étable, dans une mangeoire, et habiter là. C'est la simplicité du roi de l'univers, jugé comme un brigand. Pour beaucoup, ça a été un déchirement. À tel point que Pierre a renié le Seigneur parce qu'il a considéré que c'était une défaite. Comment le Seigneur commence à être jugé comme un bandit? Il ne fait rien. Nous croyons, on se souvient de la conversation des disciples d'Emmaüs dans Luc 24. Il disait à l'inconnu qui était Jésus, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait Jésus, un homme puissant en parole et en acte, un grand prophète. Nous croyons que c'était lui qui allait libérer Israël. Nous croyons que c'était lui le Messie, le roi. Mais cela fait 3 jours que les pharisiens, les Romains l'ont pris, l'ont crucifié, et voilà, nous sommes dans la déception. Et à cause de cette déception, à cause de ce choc, parce que ce n'est pas toujours déception, c'est choc, à cause de ce choc, Pierre a eu peur. Il a dit, ah, puisqu'ils ont déjà arrêté le maître, moi je ne fais pas le poids. Ben, il a renié. Et bien aimé, on pourrait être conduit, chacun d'entre nous, à renier le Seigneur, à cause de sa simplicité, à cause de sa docilité, qu'il veut nous communiquer. Certains d'entre nous peuvent mal interpréter les circonstances de la vie et être amenés à renier le Seigneur comme Pierre l'avait fait. Et les temps à venir sont des temps difficiles, sont des temps... Est-ce qu'on peut fermer la porte sont des temps difficiles, sont des temps de persécution, sont des temps compliqués. Et nous avons besoin d'apprendre le fonctionnement du Seigneur. Simplicité, humilité et majesté et gloire. C'est ce que je veux nous partager aujourd'hui. Jésus-Christ, il naît dans une étable, mais en même temps, une étoile, toute une étoile qui bouge. Vous savez, une étoile, c'est même plus grand que la terre. Toute une étoile bouge parce que le Fils de Dieu est né. Fils de Dieu qui se rabaisse jusqu'à naître dans une étable. Et nous voyons dans la progression de Jésus, à l'âge de 12 ans, il connaît déjà toute la parole, mais il ne commence pas le ministère. Il est écrit, il est resté soumis à ses parents. Quoique grandissant en stature et en sagesse, il est resté soumis à ses parents jusqu'au jour du commencement de l'appel. Là, il est parti pour commencer son appel à environ 30 ans, bien-aimé. Quelle docilité! À 12 ans, Tu connais tout, mais tu préfères ne pas agir. Tu attends le temps. Pendant 18 ans, il a attendu. À environ 30 ans, il commence le ministère. Nous devons apprendre les deux choses-là. Docilité et gloire et majesté. Et lorsque Jésus a travaillé, il n'était pas sur des chevaux. Il ne se promenait pas sur des chevaux. Il n'était pas entouré des gardes avec des boucliers, des lances, des épées, des javelots, non. Il était entouré de simples pêcheurs. Ce sont des simples pêcheurs de poissons qui étaient ses amis, ses compagnons. Il n'a pas choisi des professionnels de la loi comme disciples, mais il a pris les gens simples comme disciples et il s'est entouré d'eux. Jésus n'a pas demandé à marcher, à avoir un char comme véhicule, mais il a marché avec ses pieds. Et à un certain moment, il dit, le Fils de l'homme n'a ni toi, ni endroit où poser la tête. Mais en même temps, c'est ce Jésus-là qui a dit à la tempête, silence, tais-toi. C'est ce Jésus qui a marché sur les eaux. C'est ce même Jésus qui a multiplié les pains pour nourrir 5000 personnes rien qu'avec 5 pains. C'est le même. C'est le même qui a chassé les vendeurs du temple alors qu'en nombre, ils étaient plus nombreux. Et non seulement qu'ils étaient plus nombreux, si les vendeurs étaient là au temple, c'est parce que les pharisiens avaient autorisé. Et si les pharisiens avaient autorisé, les pharisiens avaient des gardes. Donc ces gardes-là pouvaient s'occuper de Jésus pour dire « Non, tu n'as pas chassé les vendeurs. » Mais pendant que Jésus chassait les vendeurs, personne ne s'est opposé à lui. La puissance s'est manifestée, la gloire s'est manifestée. Mais en même temps, c'est le même qui, lorsqu'on est venu l'arrêter, il a dit « Si je voulais, je vais faire venir mes soldats. Mais c'est l'heure des puissances des ténèbres. » C'est ça la docilité. La simplicité. Il savait que dans le plan de Dieu, c'était le moment qu'on l'arrête. Il a dit, c'est l'heure du pouvoir des ténèbres. Allez-y, arrêtez-moi. C'est votre heure. Simplicité, docilité. Arrêtez Jésus, injurier. Du moment qu'il a dit que c'était leur heure, il n'a plus réagi. Faites tout ce que vous voulez. Vous voyez, même ce garde-là a osé le gifler. Nulle part, vous allez voir, avant cette heure-là, avant l'arrestation de Jésus, vous allez voir nulle part quelqu'un taper Jésus. Nulle part. Ce n'était pas le moment, personne ne pouvait toucher à Jésus. À un moment, on a voulu le jeter du haut d'une falaise. Ils n'ont pas compris, il est passé au milieu d'eux. Personne ne lui a rien fait. Parce que c'était l'heure de la gloire de Dieu. Personne ne pouvait toucher à Jésus. Mais il y a eu l'heure de la docilité, de la simplicité, du rabaissement, de l'humiliation. Jésus a dit, c'est votre heure, faites tout ce que vous voulez. Et donc il y a même un garde qui a osé le gifler. Et ensuite, les gens ont craché sur lui et il a été crucifié. Humilité et majesté. C'est ça le fonctionnement de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Par la suite, Jésus-Christ est ressuscité. C'est la gloire de Dieu qui s'est manifestée. Gloire supérieure à toute gloire sur la terre. Ce qui fait le fondement de notre foi. Mais est-ce que Jésus, ressuscité, est parti frapper aux portes des pharisiens pour dire « Voilà, je suis ressuscité ». Non. Il a dit « Ce n'est pas moi qui vais le faire, ce sont mes disciples qui vont aller proclamer que je suis ressuscité ». Pourtant, c'est simple, bien-aimé, que Jésus ressuscité commence à apparaître à tout un chacun. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas de manière à frapper tout le temps les regards. Il peut le faire à un moment donné. Après, il revient dans un système d'humilité et de simplicité. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, mais quand on leur dit que Jésus est ressuscité, quelqu'un m'a dit, mais si on me demande de prouver que Jésus est ressuscité, moi je dis, mais dis à eux de prouver qu'il est mort, qu'il est encore dans le tombeau. Aujourd'hui, bien-aimés, selon notre logique humaine, qu'est-ce qui aurait été simple? Que quand on dit que Jésus est ressuscité, quelqu'un doute, il lui apparaît. Hein? Il dit voilà, je suis ressuscité. C'est ça! Mais Dieu sait que nous serions enfermés dans une logique que de puissance. On ne va pas connaître l'humilité si on procède de cette manière-là. Dieu veut qu'on fasse confiance que dans l'humilité, dans la petitesse, il y a quand même toujours la gloire. La gloire n'a pas disparu et elle est quand même toujours là. C'est ce qui fait que quand Jésus a été crucifié, il y a eu tremblement de terre. Le centenier qui était là n'a pas vu Jésus ressuscité, il l'a vu crucifié. Mais il a senti qu'il y a eu un mouvement dans les éléments de l'univers. Il a dit celui-ci était réellement le Fils de Dieu. Dans cette humilité, il y a quand même la gloire, mais qui est comme cachée. Et le Seigneur veut qu'on s'habitue à ça. Il y a des moments où sa gloire est apparente, il y a des moments où sa gloire est cachée. Mais si on ne fait pas attention, on va renier le Seigneur, croyant. Mais on ne va pas dire, Seigneur, je te renie. Certains ne vont pas dire, je ne crois plus en Dieu. Non. Officiellement, on va toujours continuer à dire, je crois en Dieu. Mais on va prendre des positions qui montrent en réalité, on ne croit plus. On a renié. Il y en a qui vont commencer, qui vont tomber carrément dans la dépression. Le Seigneur ne fait rien. Il nous a abandonnés et c'est la dépression. Mais c'est une façon de renier le Seigneur. Puisque on ne croit pas qu'il est glorieux parce qu'il est dans une position de crucifié. C'est une façon de renier, bien-aimé. Pourquoi Pierre a renié? Parce qu'il s'est dit que le Seigneur avait perdu la bataille. Il s'est dit qu'il était faible. Vous croyez que si Pierre était sûr de la résurrection du Seigneur, il aurait renié? Il n'aurait pas renié, il aurait dit qu'il aurait su que tout est sous contrôle. C'est qu'à un certain moment, il a perdu la foi. Pourquoi il a perdu la foi? Parce que le Seigneur était dans une phase de docilité, d'humilité et de simplicité. Cette image-là du Seigneur bouge les gens. Et ça permet aux vrais chrétiens de trembler, mais ensuite de devenir encore plus fort qu'avant. Et ça permet de dévoiler les faux chrétiens. Les faux chrétiens ne supportent pas Jésus-Christ dans la docilité, dans l'humilité, dans la simplicité. Et ils se sont convertis dans une logique de puissance, de victoire. Il faut gagner. Bon, je me suis converti, mon mariage doit marcher. Je me suis converti, je dois avoir des voitures. Je me suis converti, mon boulot doit marcher. Je me suis converti, mes enfants doivent être en bonne santé. Voilà les faux chrétiens. Dans leur tête, il y a un contrat de succès. Mais le vrai chrétien sait qu'en se convertissant, il est devenu enfant de Dieu. Il est devenu représentant du Dieu qui a fait les cieux et la terre. Enfant de Dieu, tout simplement. Il est devenu à part du monde. Ce qu'il cherche, ce n'est pas le succès, mais il cherche la présence de son Père tout le temps dans sa vie. À être avec lui. Il cherche à ressembler à son Jésus. C'est ça le véritable chrétien. Il accepte la gloire, mais il accepte aussi la docilité, la simplicité et l'humilité. Il accepte que la gloire qui est en lui, parce qu'il est fils de Dieu, soit cachée par des circonstances et des positions d'humiliation et d'humilité. Bien-aimé, Dieu a toujours agi comme ça, pas autrement. Abraham était très riche, avec des terres, des troupeaux, et dans une position favorable parce qu'au milieu d'une grande famille. Vous savez, quand vous habitez, à l'époque, c'était des tribus. Tu es là, tu as quelques hectares, et les hectares qui suivent, c'est ton cousin, les autres, c'est ton père, et donc tu te sens en sécurité, tu es bien, tu es stable. Mais Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, va là où je te montrerai. Bref, va dans l'instabilité. C'est ça Dieu. Il travaille toujours dans la faiblesse et dans la puissance en même temps. Faiblesse et puissance. Abraham était dans une sécurité humaine. Dieu brise cette sécurité. Il dit pas de sécurité. Va dans l'instabilité. Moi je serai avec toi. Cela est suffisant. Meekness and majesty. Docilité, simplicité et majesté. En même temps, Abraham n'avait plus rien. Mais il avait Dieu, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Donc toujours les deux en même temps. Vous connaissez l'histoire de Joseph, hein? Joseph, la majesté. Son propre père lui fait une robe plus belle que les robes de ses frères. Multicolore, la majesté. Lui-même, il fait un rêve où ses frères se prosternent devant lui. Il fait un autre rêve. Non seulement ses frères, mais ses parents se prosternent devant lui. Là, il est dans la gloire, dans la majesté. Mais vite, il se retrouve dans un puits jeté par ses frères. Ensuite, vendu comme esclave. Là, maintenant, nous sommes dans la phase de l'humilité, de la simplicité. Mais est-ce que Joseph a renié Dieu? Non. Joseph savait que Dieu était avec lui. Et c'était suffisant. Même s'il a été vendu comme esclave, il savait que les songes qu'il avait faits, c'était des vrais songes. Et qu'il ne mourrait pas. Dieu sera avec lui. Donc dans les moments d'humilité, de brisement, d'humiliation, souvenons-nous que la gloire, la majesté de Dieu est avec nous. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, disent les Écritures. Dieu est fidèle. Il veut qu'on prenne conscience qu'il est là. Et cela suffit. C'est pourquoi acceptons de marcher dans la docilité, dans l'humilité, dans la simplicité. Car la gloire ne nous quitte jamais. Elle est là, mais elle est cachée parce que Dieu veut agir à un haut niveau. Dieu veut toucher les profondeurs de la difficulté. Il veut toucher les profondeurs de la difficulté. Vous savez, si les médecins d'aujourd'hui avaient la capacité de se transformer en petits microbes, mais avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, ils entrent dans le corps. Beaucoup de médecins se transformeraient pour aller tuer un à un les virus de sida. Donc ils se transforment en petits microbes, ils entrent avec tous les bistouris, tout ce qu'ils ont comme produit, ils commencent à tuer un à un. Mais c'est impossible. Ils ne peuvent pas se ravaisser au niveau des microbes. C'est ce qui fait la faiblesse de ces médecins-là. Et aujourd'hui, s'ils veulent tuer complètement les microbes du sida dans le corps d'un homme, ils sont obligés de tuer l'homme aussi en même temps. Mais Dieu montre sa force, c'est que non seulement il est plus grand que l'univers, mais il peut entrer dans un corps et tuer un à un sans tuer le corps. Tuer un à un les microbes du sida. Un à un. Parce qu'il a cette capacité de s'humilier, de se rabaisser. C'est que les forces des ténèbres n'ont pas. Les forces des ténèbres n'ont pas cette capacité de descendre, de se rabaisser. Elles n'ont pas cette capacité-là. Dieu a cette capacité. C'est pourquoi pour contrer les forces des ténèbres, pour nous aider complètement, il a la capacité de redevenir petit, mais tout en gardant sa gloire. Et d'agir à une échelle très, très petite par rapport à sa grandeur à lui. C'est pourquoi il est humble, parce que s'il n'était pas humble, il ne pourrait pas descendre à notre niveau. Donc nous serions, en quelque sorte, détruits en même temps que les forces des ténèbres. Au fait, si Dieu n'était pas capable de se rabaisser, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, il enverrait une puissance qui détruirait les forces des ténèbres, mais qui nous détruirait aussi au passage. Mais, par sa capacité à se rabaisser, il peut devenir suffisamment petit et attaquer les forces des ténèbres sans nous toucher, nous. Vous connaissez la parabole de l'ivraie et du blé? Quand le monsieur a semé le blé, quelques jours après, les ouvriers viennent, ils voient qu'il y a aussi l'ivraie. Ils disent au maître, « Maître, nous allons tout détruire. Nous allons plutôt, enlever l'ivraie. » Le maître a dit quoi? « Attendez, parce qu'au stade où c'est comme ça, si vous enlevez l'ivraie, vous risquez de détruire le blé en même temps. Attendez que ça pousse. Et quand ça va pousser, le blé sera solidement attaché à la terre, l'ivraie aussi, mais vous pourriez déraciner l'ivraie sans déranger le blé. Voilà l'objectif de Dieu. Comment peut-il sauver les humains au niveau des humains sans, bien sûr en éliminant les forces des ténèbres, en détruisant ce que les forces des ténèbres ont fait au milieu des humains, sans pour autant détruire les humains? Il fallait qu'ils se rabaissent. Il fallait qu'il soit dans ce fonctionnement-là, en même temps dans la puissance, en même temps dans la faiblesse. Afin qu'à partir de cette faiblesse-là, il puisse s'infiltrer au milieu des humains et éliminer ce qui est des ténèbres sans toucher les humains, sans détruire plutôt les humains. C'est ce que Dieu fait et a toujours fait. Et il s'est toujours humilié. Bien-aimés, comment voulez-vous sauver les prisonniers s'il n'y a pas quelqu'un qui s'approche d'eux? Il faut bien qu'il y ait peut-être un chrétien faussement accusé et qui se retrouve en prison pour pouvoir parler aux prisonniers. Donc vous voulez parler aux prisonniers à la télé en costume? Ils suivent les émissions là, tu es en costume bien habillé. Donc le prisonnier se dit, mais c'est normal qu'il parle bien de Dieu puisqu'il est en costume bien habillé, une grande église à la télé. Mais le jour où le prisonnier rencontre un autre prisonnier, mais qui est très heureux, qui est maltraité, mais qui répond par le bien, qui n'obéit pas aux règles de la méchanceté qui règne dans la prison. Il y a un policier qui a dit au pasteur Davis, la prison, ça change les gens, ça rend les gens vraiment mauvais, les gens, vous n'allez plus les reconnaître. Mais lorsqu'un prisonnier maintenant rencontre un autre prisonnier, mais transformé par Jésus, il sait qu'ils sont dans les mêmes conditions, mais lui est resté bon. Là, il va dire Dieu existe. Là, il veut prêter attention. Mais comment cela serait possible? Il faut bien qu'il y ait un chrétien qui passe par là. Voilà. Parfois injustement. C'est ça le meekness. C'est ça l'humilité. C'est ça la simplicité. C'est ça le rabaissement. C'est ça. Bien-aimé, Dieu va se rabaisser pour sauver le maximum. Il est obligé. Puisqu'il est amour, il va se rabaisser. Et si nous sommes de lui, nous allons nous rabaisser avec lui. Il faut accepter cela, bien-aimé. Il faut accepter. Comment Dieu peut-il sauver les méchants sans que nous ne subissions les torts venant des méchants? C'est impossible, parce que imaginez qu'un méchant soit gentil comme nous, mais donc il n'est plus méchant. Il n'est plus méchant. Donc pour que quelqu'un soit méchant, il faut qu'il fasse du mal. Maintenant, comment ce méchant-là peut-il être sauvé? Lorsqu'il nous fait du mal, nous lui répondons par le mal. C'est ça qui va être sauvé? Pas du tout. Il se dira, mais oui, mais ils font comme moi, je ferai. Si on me fait le mal, je réponds. Je leur fais du mal, ils répondent. Donc, il n'y a pas rabaissement. Ce méchant-là sera touché lorsqu'en nous faisant le mal, il voit que nous répondons par le bien. Il ne sera pas satisfait. Il va redoubler d'efforts dans le mal en disant, il a supporté cette dose, je vais aller plus loin. Voir s'il tiendra. Et c'est là que nous nous craquons. Nous disons, oh, là le Seigneur laisse trop faire. Moi aussi je vais répondre. Et c'est fini. On n'a pas supporté le meekness, la simplicité, la docilité. On a voulu toujours se prouver que Dieu est fort. C'est pourquoi Christ a dit quoi? Lorsqu'on vous fait du mal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bénir ceux qui vous persécute. Priez pour ceux qui vous font du bruit pour vos ennemis. Aidez vos ennemis. Les soignez. Leur donnez à manger. C'est ça qui fait réellement la gloire de Dieu. C'est ça qui fait que Dieu s'approche de ces gens-là. C'est clair, bien-aimé. Dieu ne peut pas sauver l'humanité sans l'humilité, sans l'abaissement. C'est pourquoi nous serons conduits à cet abaissement-là. Mais pendant cet abaissement, beaucoup vont renier le Seigneur. Beaucoup vont dire, on a trop supporté. Maintenant, nous aussi, on va se battre. Voilà, malheureusement. Beaucoup vont dire, bon, puisque c'est comme ça, on vit que par la magouille dans ce pays, moi aussi, je vais corrompre. Beaucoup vont céder. C'est dangereux, bien-aimés. Nous devons comprendre le fonctionnement du Seigneur. Le Seigneur est glorieux, mais il est prêt à se rabaisser, à perdre pour pouvoir sauver. Il est prêt à cela et il va nous entraîner à cela, bien-aimé. Nous avons beaucoup à apprendre des chrétiens qui vivent de la persécution. Eux, ils ont appris cela. Ils ont appris que Dieu se manifeste dans l'humilité, par l'humilité, la simplicité et en même temps par la gloire. C'est en même temps croire que Dieu va toujours venir taper, gagner. Pour nous, c'est faux. Il y a des moments, Dieu nous livrera aux forces des ténèbres. Comme c'est écrit, Jésus a dit, c'est l'heure des ténèbres. Faites de moi tout ce que vous voulez. Je suis livré à vous. il y a des moments, Dieu nous livrera. Quand Dieu nous livre, il ne faut pas résister. Résister, ça voudrait dire que nous résistons au plan de Dieu. Soyons prêts à ce qu'on nous marche sur les pieds. Soyons prêts à ce qu'on nous parle mal. Soyons prêts à ce qu'on perde les choses. Même si on a raison, soyons prêts parce que ça fait partie du processus du salut de l'humanité. Il faut que l'humilité, la simplicité se manifestent. Il faut qu'il y ait des pertes dans le camp du bien pour prouver que c'est le camp du bien. Parce que sinon, c'est pareil pour tout le monde. Non. Le fait que nous soyons en part, c'est cela. Ça va faire que c'est nous qui allons perdre. C'est nous qui allons souffrir afin que les autres soient sauvés. Et cela passe par l'humiliation, l'humilité, le rabaissement. Joseph, prison, injustement. Il pouvait dire, bon, j'ai raison, je n'ai rien fait à cette femme. Je vais me plaindre. Je vais résister. Il n'a pas résisté. Il est parti en prison. Et c'est de là, en prison, que le plan de Dieu s'est formé. Il a expliqué. Vous savez, c'est toujours pareil, toujours en même temps. L'humilité et la gloire. Beaucoup n'ont pas la gloire parce qu'ils n'ont pas non plus l'humilité. Parce que ça fonctionne en même temps, l'humilité. Vous savez, même les gens du monde l'ont compris. Même les gens du monde savent que... J'écoutais quelqu'un qui disait que mais pour qu'il gagne cette course-là, il ne faut pas qu'il soit dans la colère de vouloir gagner. Il faut qu'il soit simple. C'est comme ça qu'il pourra gagner. En parlant d'un coureur de 100 mètres, bien-aimé. L'humilité et la gloire, toujours ensemble. Et Dieu veut que nous comprenions cela. Toujours ensemble. Il n'y a pas de différence. Et dès qu'on néglige l'humiliation, dès qu'on néglige le rabaissement, nous sortons de la parole de Dieu. Joseph s'est dit, bon, malgré le fait que je suis en prison, je demeure en communion avec le Seigneur. Et puisque je demeure en communion avec le Seigneur, je le prends au sérieux. Et quand il a eu des songes, il les a pris au sérieux. Il ne s'est pas dit, oh, de toute façon, le Seigneur m'a abandonné. Ce songe, je ne pense même pas que ça vienne de lui. Non, il savait que son Seigneur était vivant et qu'il était toujours le plus fort, malgré la position en prison. Et il a donné des explications au songe. Ces explications ont amené à ce qu'il donne des explications du songe, des songes faits par le roi. Et finalement, Joseph est devenu premier ministre, bien-aimé. Finalement. Dans notre vie, il y aura tous ces moments-là, des moments d'humilité, des moments de gloire, ensemble, et il y aura parfois des moments que de gloire. Mais maintenant, pendant qu'il y a des moments que de gloire, qu'est-ce que nous devons faire? Nous souvenir qu'on doit être petit. Pendant ces moments de gloire, nous devons nous souvenir, ah tiens, je suis dans la gloire maintenant, à moi de me souvenir que Dieu est au-dessus de ça. C'est pourquoi il est écrit, Dieu donne sa gloire à personne. À moi de me souvenir que ce n'est pas la mienne, c'est celle de Dieu. Je dois lui restituer. Comment? Par des actes d'humiliation, la prière, l'adoration et le fait que les compliments rebondissent. Quand les compliments viennent sur toi, tu dis, hey, c'est Dieu qui a fait. Donc tu lui restitues. Donc au moment où tu brilles, souviens-toi que ce n'est pas toi qui brilles, c'est Dieu qui brille en toi. Et sache lui rendre gloire. Sache lui rendre gloire en acceptant parfois certaines personnes qui vont te diminuer. On a vu David qui était roi, entouré de plusieurs soldats, se faire injurier par un homme seul. Et non seulement injurier, l'homme lui jetait la poussière, Shimei, il lui jetait même la poussière. Cet homme-là était seul. David était avec toute sa garde. Donc il suffisait qu'il dise un mot, cet homme l'a été tué sur place. Mais David avait compris que c'était l'heure du meekness, l'heure de l'humiliation. Quand ses gardes ont voulu tuer cet homme, David a dit, mais laissez-le. S'il m'injurie, c'est Dieu qui l'a envoyé m'injurier. C'est l'heure que je subisse l'humiliation. C'est l'heure que je subisse le rabaissement de Dieu. Et il a continué en disant, bon, Dieu va voir que je suis triste, que je suis en train de pleurer. Et alors, il me donnera peut-être ma royauté d'autres fois. Ah, c'est ce qui s'est passé, bien-aimé. C'est des gens qui connaissaient Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a dit, c'est mon temps d'être humilié. Mais beaucoup résistent parce qu'ils ont un peu de force encore. Non, discernons, ayons la sagesse du Saint-Esprit pour savoir que ça, c'est mon temps d'être critiqué. Ça, c'est mon temps d'être piétiner, ça c'est montrant d'être rabaissé. Ayons la sagesse pour discerner tout ça et ne pas résister en ce moment-là, comme David n'a pas résisté du tout. Il a dit, laissez Chimé m'injurier, me balancer la poussière, c'est pas grave. Bien-aimés, réfléchissons aussi. Est-ce que quand un homme seul vient affronter plus de 1000 hommes, même pas un homme, homme par homme, mais il affronte leur roi, leur chef. Lui, il est tout seul, il vient affronter le roi. Le roi a bien compris que ça, c'était Dieu qui l'envoyait l'humilier. Il a bien compris qu'un homme, logiquement, ne peut pas venir affronter le roi alors qu'il est accompagné de ses gardes. Un homme tout seul, un homme qui n'est même pas jeune, ce n'est même pas un soldat. Le roi a compris, ça ne sert à rien de le toucher. Ça serait résister au plan de Dieu. Laissez-le m'injurier. Ce n'est pas grave. Dieu va voir ma tristesse, va voir que je pleure et il aura pitié de moi. Et peut-être il me donnera la royauté d'autrefois. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu lui a redonné la royauté parce qu'il s'est humilié. Il a accepté le temps de brisement. Il connaissait le fonctionnement de Dieu. Que Dieu fonctionne toujours dans la gloire, mais cette gloire peut parfois être cachée par l'humiliation, le rabaissement, la docilité dans certaines circonstances. Moïse, il voit un buisson ardent. Un buisson qui ne brûle pas, qui ne consume pas. Et plutôt un feu qui ne consume pas le buisson. Quel miracle! Mais on lui demande d'aller libérer le peuple d'Égypte rien qu'avec un bâton. Mais c'est pas facile, bien-aimé. Aller libérer tout un peuple qu'avec un bâton et avec la parole en disant au roi, libère mon peuple. Qui aurait cru ça? Comme l'histoire que j'ai racontée, je crois, le dimanche. Cette femme qui va demander au marchand de lui donner des fruits et des légumes. Et comme seule monnaie, c'était un papier avec une prière à Dieu. Quelle foi de croire qu'une simple prière sur un papier va lui faire donner les fruits et les légumes. Mais, au bout des choses, elle avait beaucoup plus qu'elle pensait avoir. Elle est repartie avec beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, parce que la prière a été beaucoup plus lourde. Le papier a été beaucoup plus lourd que les fruits qu'on mettait sur l'autre plateau de la balance, parce que le Dieu de miracles était là. L'humilité et la gloire, en même temps, toujours. Voilà le fonctionnement de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, mais il utilise un homme avec un bâton. Pourquoi il n'enverrait pas 1 million d'anges venir bloquer chaque soldat égyptien et dire, allez, mon peuple sortez. Non, il a envoyé un homme avec un bâton afin que les forces des ténèbres voient sa grandeur. Que Dieu peut sauver juste avec un bâton et avec la parole. C'est ça la grandeur de Dieu. Il utilise aussi la petitesse pour montrer sa grandeur. Pour montrer qu'il est grand. Il utilise des gens petits, des gens réduits, des circonstances inattendues. Mais si on n'est pas habitué à ça, on ne va jamais fonctionner avec Dieu. On va être tout le temps dans l'inquiétude, tout le temps dans le mécontentement, tout le temps dans les questionnements. Tout le temps dans la jalousie parce qu'on aura l'impression que Dieu fonctionne mieux avec les autres. Parce que tu ne vois que la gloire apparente, mais tu ne connais pas les situations humiliantes que ces personnes traversent. Tu ne vois que le résultat de certaines œuvres qu'ils produisent. Mais tu ne connais pas leur vie. Quand on dit « Ah, Hussein Talor a gagné toute la Chine intérieure, a gagné la Chine intérieure », mais il a perdu sa femme et ses deux enfants. On ne connaît pas ça, qu'avant qu'il gagne tout ça, il a connu ces événements-là. On se dit seulement, moi aussi je vais faire comme Hussein Talor, gagner telle ville, tel endroit. Mais oui, mais il faut savoir que Dieu travaille dans l'humilité, dans l'humiliation et dans la gloire en même temps. Il faut aimer les deux choses. Si tu n'aimes que la gloire apparente, tu ne vas jamais connaître Dieu. Tu vas être pris par les forces des ténèbres. Les forces des ténèbres aiment toujours impressionner, toujours impressionner. Elles ne se rabaissent jamais, toujours impressionner. Envoyer toute la sauce. Mais Dieu est prêt à envoyer toute la sauce. Il est aussi prêt à être simple, humble, docile même, à travers un homme. C'est ça la grandeur de Dieu. Et c'est ça qui surprend les forces des ténèbres et ils sont déstabilisés. Rien qu'un bâton. Pharaon dit, mais ce n'est pas possible. Tu penses que moi je vais laisser le peuple d'Israël s'en aller parce que tu me dis de les laisser partir. Moïse dit, oui, je crois. Parce que si tu ne le fais pas, je vais envoyer des choses ici. Oh, bien aimé, normalement, il suffisait qu'on fasse quoi? On envoie 10 soldats arrêter Moïse, Aaron et peut-être un ami qui est avec eux. Allez, tuez-les. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Mais parce qu'il y avait la gloire. Là où il y a la gloire, même d'une manière invisible, tu ne peux rien faire. Les anges sont là. Il y a quelqu'un qui avait dit, quand on est avec Dieu, on se plaint beaucoup, on ne voit pas Dieu agir, il n'est pas là, on ne le voit pas. Mais quand tu deviens contre Dieu, c'est là que tu vas réaliser qu'il existe. Parce qu'à chaque fois que tu voudras faire une action contre lui, tu sentiras la résistance. Toi, tu sauras qu'il existe. Beaucoup d'entre nous ne font que se plaindre. Ah, mais je ne vois pas Dieu dans ma vie. Deviens contre lui et va attaquer un chrétien. C'est là que tu vas te rendre compte que Dieu existe. Va attaquer le plan de Dieu. C'est là que tu vas te rendre compte qu'il existe vraiment. Tant que tu es avec lui, tu ne le sens pas. Il est invisible. Mais deviens contre lui. Le pharaon n'a pas compris. Mais comment ce type, il veut libérer, il vient avec un bâton. Mais l'idée même de dire attraper Moïse, tuez-le, ça ne venait même pas dans la tête. Bien aimé, pourtant c'était simple. Hein? Attraper-le, tuez-le. Il y a même certains gardes du corps qui devaient être étonnés. Mais pourquoi on ne l'attrape pas seulement, on le tue, au lieu de discuter longtemps comme ça? Mais l'ordre doit venir du pharaon. Mais le pharaon, cette idée-là même ne venait pas. Donc on lui a enlevé cette idée-là. Toi, va mettre l'idée, alors qu'il y a le roi des pensées qui est au ciel. Qui donne, il est écrit dans Proverbes 21:1, le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il l'incline où il veut. Une semaine avant, le ministre Strauss-Kahn avait prédit ce qui lui était arrivé. Eh bien, on va payer une femme qui va me piéger. Mais pourquoi il s'est fait toujours piéger? Ah ben voilà. Parce qu'il y a un maître qui est au ciel qui décide sur tout. Tu as beau être intelligent, prévoir les choses. Si lui décide que tu tomberas dans le piège, s'il laisse faire les forces des ténèbres t'auront parce que Dieu les a laissées faire. C'est comme ça, bien-aimé. Après Moïse, David, un enfant que Dieu choisit pour combattre un géant. Pourtant, il y avait d'autres soldats. Pourquoi Dieu n'aurait pas un soldat, comme Saül, lui-même le roi, il paraît que c'était le plus costaud de tous les enfants d'Israël. Il les dépassait tous d'une tête. Même David a voulu mettre son armure, mais c'était trop lourd, c'était trop vaste, trop solide, trop lourd, trop grand. Il a laissé tomber, quoi. Mais Dieu a dit non, Goliath va savoir que c'est moi le chef. Comment il va le savoir? C'est un petit garçon qui va le taper. Parce que si j'envoie Saül le taper, on va dire, mais Saül était aussi costaud. Il a utilisé sa force, ses entraînements, et il a vaincu Goliath. Non. C'est un jeune enfant qui n'est même pas soldat qui va le taper. Je me mets toujours, quand je pense à ça, je me mets à la place de Goliath. Quand il a vu que c'était un enfant qui voulait se battre contre lui, il a dû trembler, quoi. Même si, par la bouche, il a beaucoup parlé, mais dans son cœur, il tremblait. C'est comme si tu vas dans des cités, dans des quartiers compliqués, tu vois un enfant de 8 ans t'injurier. Ah, tu sais que ce quartier-là est compliqué. Si cet enfant-là m'injurie, c'est qu'il y a 2 caïds, 3 ou 4 embusqués quelque part, c'est pourquoi. Donc tu vas trembler, même si c'est un enfant de 8 ans. Tu vas passer ton chemin. Pourtant, c'est un enfant de 8 ans. Je crois que Goliath, quand il l'a vu, s'est dit, mais ce petit-là, comment il peut avoir ce courage-là? Donc il a parlé seulement, je vais te donner ta chair aux oiseaux, tout ça, mais il avait déjà eu peur. Il avait déjà eu peur. Il s'est dit, là, ça va chauffer. Nous, on est là, spectateurs, on regarde comme ça, mais les gens qui nous attaquent, eux-mêmes, ils savent qui ils attaquent. Et parfois, nous, on croit qu'ils n'ont pas peur, ils ont peur. Parce qu'ils voient des choses que nous ne voyons pas. Goliath a tremblé. Et David l'a achevé. Rien qu'avec une pierre, un petit caillou, bien-aimé. Humilité et gloire en même temps. Simplicité et puissance en même temps. Alors que c'était un enfant tout simple avec un caillou, mais il triomphait d'un géant de 3 mètres, armé jusqu'aux dents. Parce que Dieu a choisi d'utiliser les choses simples pour confondre les choses immenses, les choses géantes. Nous devons nous habituer à ces fonctionnements. Si tu ne t'habitues pas à ça, tu vas aller dans des combats qui ne sont pas à toi parce que tu te sens fort. Non. Nous, les chrétiens, nous n'avons pas à aller embrasser des combats parce qu'on se sent fort, parce qu'on pense avoir des moyens. Nous devons embrasser les combats parce que Dieu nous a envoyés. Et même quand on se sent faible, on sait qu'il m'a envoyé. C'est lui qui va faire. Quand Jésus a envoyé les disciples, il les a envoyés poche vide. Il a dit, allez-y. Et quand ils sont revenus, il a dit, mais est-ce que vous avez manqué quelque chose? Non. Mais il fallait qu'ils aillent simplement les poches vides en faisant confiance à l'Éternel. C'est ça le fonctionnement de Dieu. Si on ne s'habitue pas à ce fonctionnement, on va craquer, on va sortir du plan de Dieu et on va commencer à marcher vraiment par la chair. Dans l'idée de beaucoup de chrétiens, quand tu es avec Dieu, tu n'as plus de problème. Ce n'est pas écrit. Dans le psaume 34, c'est écrit, le malheur, au verset 20, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le problème, ce n'est pas le malheur. Le problème, c'est la délivrance qui vient tout le temps. Le malheur atteint souvent les justes. C'est ça la vraie parole de Dieu. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et nous, on est là à bouder, à se questionner, à dire, mais pourquoi beaucoup de malheurs comme ça? Pourquoi? Mais parce que Dieu veut beaucoup te délivrer aussi. Afin que tu reconnaisses qu'il est grand, bien-aimé. C'est pourquoi nous devons apprendre à accepter ces circonstances où les malheurs viennent, qui se succèdent. Vous savez, quand ça se succédait sur la vie de Job, les gens ont critiqué. Ils ont dit non, quand même si Job n'avait rien fait de mal, pourquoi tout ça? On aurait compris une ou deux, trois choses. Mais là, s'il y a tout ça, c'est qu'il a fait un péché. C'est pourquoi Dieu s'est fâché contre les amis de Job, parce qu'ils ont fait une déduction. À partir des souffrances de Job, ils ont considéré que Job avait beaucoup péché. Il s'est fâché contre eux, parce qu'ils ont réfléchi comme les gens du monde. Or, la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, c'est l'Éternel qui le délivre toujours. Bien-aimés, je n'ai pas dit que parfois nous récoltons pas ce que nous semons, parfois nous récoltons ce que nous avons semé. À nous d'examiner notre vie, de voir est-ce que ce que je vis est dû à ce que j'avais semé. Mais si ce n'est pas le cas, après examen, confie-toi à l'Éternel, il te délivrera. Voilà. Paul en a parlé, il a dit, j'ai connu toutes sortes de difficultés, mais le Seigneur m'a délivré de toutes. De toutes. Lisez la vie de Paul. Il en parle. J'ai connu toutes sortes de difficultés, mais l'Éternel m'a délivré de toutes. Et David, un jeune enfant qui va libérer tout un peuple. Goliath a régné, non? 40 jours. 40 jours, c'est beaucoup. Hein? Chaque jour, il s'élève le matin. Il dit, vous n'avez pas, vous êtes des poltrons, vous êtes des poules mouillées. Personne n'ose se battre contre moi. Les gens étaient là honteux. Et qui semblait être aussi honteux? Dieu. Pas de candidat pour se battre contre Goliath. Et le 40e jour, un jeune enfant vient. Bien-aimé, voyez la puissance de Dieu. Satan n'aurait pas imaginé que c'est ce petit enfant-là qui vient éliminer son cadeau à lui. Un jeune enfant vient. Il dit, mais ce type-là, qu'est-ce qu'il fait là? Il injurie l'armée de l'Éternel. Il se moque de Dieu. Oui, mais le frère de David dit, mais alors? Bon, moi-même, je vais m'occuper de lui. Ah, bien, mais même les frères, les gens qui étaient de, mais non, petit, toi, tu es orgueilleux, toi. Oh. David dit, mais il injurie Dieu, non? Oui, mais alors? Bon, moi, je vais le taper. Ah, mais les gens n'ont pas compris parce que David avait l'esprit de Dieu. Il sait que là où Dieu est humilié, rabaissé, la gloire de Dieu est là. Dieu va se glorifier. David n'était pas comme le chrétien d'aujourd'hui, le canard boiteux, le cow-boy fatigué, dès qu'il y a des problèmes. Dieu nous a abandonnés. Oh, bien-aimés. était en train de pleurer, alors qu'il était dit, la joie de l'Éternel, c'est ma force. Oh, Dieu ne fait rien. Quand même, pasteur, ça fait 5 ans. Oui, mes bien-aimés. Les enfants d'Israël ont attendu combien de temps pour que Moïse les libère? Moïse lui-même, il a attendu combien de temps? 40 ans. Il n'attendait même plus, il savait que c'était fini. Bon, mon peuple esclave là-bas, j'ai voulu libérer 2 ou 3, ça n'a pas marché. Bon, je vais faire ma famille ici dans le désert. Mais Dieu, qui voulait libérer le peuple, a réveillé Moïse. Il a dit, va libérer maintenant. Bien-aimé, c'est ça. Même quand nous, nous sommes dépassés, Dieu va nous réveiller, va dire, ce n'est pas fini. Je suis toujours là. Je ne perds jamais de combat. Je suis toujours là. C'est ça, frères et sœurs. Apprenons le fonctionnement de Dieu. Josué, qui gagne la bataille rien qu'avec des trompettes qui sonnent. Trompettes seulement. Mais qui va obéir à de tels ordres? Tu dis, bon, vous allez faire le tour. 7 fois le tour des murailles. Et après, vous allez sonner la trompette en faisant des cris. Même quand toi, tu donnes les ordres aux gens, le chef aussi, il est devenu trop spirituel. Mais non, c'est Dieu qui veut confondre les forces des ténèbres, confondre les humains, dire que lui, il est grand, donc il peut gagner avec des petites choses. Voilà. Avec des petites choses. Humilité et gloire en même temps. Toujours. Avec Dieu, c'est comme ça. Et n'en parlons pas avec les Ézéchias. Il a vaincu l'armée de Sanhérib. 180 000 personnes, ils sont morts tous en une nuit. Avec Élisée, il a fait des prouesses extraordinaires. Alors qu'il y avait la famine, Élisée a dit, dans 2 jours, je crois, vous allez voir ici, le pain, la viande, la farine sera à profusion ici. Les gens ont dit, mais il est fou. On est assiégé, on meurt. Et les gens commençaient même à manger leurs enfants. Élisée prophétise que dans 2 ou 3 jours, j'ai oublié le nombre de jours, mais c'était environ 3 jours ici, ben, il y aura tellement à manger que les prix vont baisser formidablement. Mais quand ces jours-là sont arrivés, ben, ça s'est passé comme Élisée avait dit. Dieu a sonné quelque chose. Les gens ont cru que les ennemis venaient. Ceux qui avaient assiégé Israël, ils ont fui. Et les lépreux sont venus récupérer les butins. Et ils ont signalé aux autres, ben, le camp des ennemis est libre. Allons récupérer la nourriture. Les gens sont venus récupérer la nourriture. Il y en avait tellement. La parole d'Élisée s'est accomplie. Rien qu'une parole a suffi pour finir la bataille et donner la nourriture aux gens. Ça, c'est notre Dieu. Il travaille comme ça. La parole, et tout est libéré. Je vous dis, mais rien qu'une parole, oui, c'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est pourquoi beaucoup négligent la Bible. Ils n'ont pas compris que Dieu fonctionne avec sa parole, qui paraît aussi simple que ça. Oui, il fonctionne avec ça. Pourquoi? C'est parce que tu as lu ça à quelqu'un, il t'a dit qu'il ne comprenait pas et que ça ne faisait aucun effet. Non, il est écrit dans Ésaïe 55. Ma parole ne sort point et ne retourne point à moi sans accomplir ses objectifs. Même si on a eu l'impression que quelqu'un est resté insensible, faisons confiance à ce qui est écrit. C'est ça, bien-aimé. Et que nous dit Paul? Parce qu'il y a beaucoup d'exemples que je pourrais citer. Jean-Baptiste, en peau d'animaux, simple dans le désert, mais celui que Dieu utilise et tout le monde se soumet à lui. Même Hérode a invité Jean-Baptiste pour écouter Jean-Baptiste, le roi Hérode. Parce que Dieu utilise les gens comme ça, tels qu'il veut, les gens simples. Et c'est écrit, et Paul le dit même. Il dit que, regardez parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages. Dans 1 Corinthiens 1, 26 à 27, il n'y a pas beaucoup de sages, de forts parmi, selon la logique de ce monde. Ce sont des gens simples que Dieu a choisis pour faire des choses extraordinaires. Dieu utilise les vils instruments pour accomplir des œuvres extraordinaires. C'est comme ça que Dieu fonctionne, bien-aimés. Acceptons son fonctionnement. Je ne dis pas que nous cherchons pas à nous améliorer dans les choses. Pas du tout. Je dis tout simplement que Dieu fonctionne comme cela. Et pendant que nous discernons que c'est son temps de nous humilier ou de se rabaisser pour toucher les humains, acceptons cela. Ne résistons pas, bien-aimés. Ne résistons pas. Il y a un temps pour tout. Il y a plein d'exemples. Et je prends à cause du temps l'exemple de Paul. Il dit, trois fois j'ai prié le Seigneur pour qu'il me guérisse de ma maladie. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Nous lisons ce passage, 2 Corinthiens 12. À partir du verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Paul le dit, si je dois faire une sorte de palmarès personnel et me glorifier, j'aurais raison. Car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi. Je préfère rester humble. À cause de l'excellence de ces révélations que Dieu lui a faites, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, verset 7, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Écoutez le verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Conclusion de Paul, une conclusion anormale pour les chrétiens d'aujourd'hui. Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages. Voilà. Conclusion difficile dans les angoisses, dans les persécutions, dans les privations. Aujourd'hui, s'il y a des privations, les gens disent, tu n'as pas beaucoup de foi. Quand il y a des privations, les gens disent, Dieu n'est pas avec toi. C'est pourquoi tu manques de moyens. Angoisse, Dieu l'a frappé. Paul a dit, bon, puisque moi je sais que je marche correctement avec Dieu, quand toutes ces choses arrivent, je suis content. Je ne dis pas que bien-aimé, on peut aussi être frappé à cause de nos propres mauvais comportements. Mais à nous d'examiner, quand toutes ces choses arrivent, ces mauvaises circonstances, on examine, Seigneur, est-ce que j'ai eu un rôle à jouer par rapport à tout ce qui m'arrive? S'il n'y a rien, je dis, bon, je vais faire comme Paul, je me réjouis. Je bénis le Seigneur dans les faiblesses parce que lorsque je suis faible, en réalité, la puissance de Dieu, elle est prête à se manifester glorieusement. Je suis en réalité puissant parce que Dieu veut utiliser la faiblesse pour montrer qu'il est Dieu. Donc c'est ça, j'en profite pour donner la première raison. Pourquoi il y a l'humilité et la gloire en même temps? Parce que Dieu veut montrer qu'il est Dieu en utilisant les faibles choses. Voilà. Il veut montrer qu'il est tout puissant parce que s'il utilisait les choses costauds, puissantes, les gens diront que ce sont ces choses-là qui ont agi. Ce n'est pas Dieu. Alors, utilise les petits pour que les gens se disent, mais un petit ne peut pas taper Goliath. Donc, forcément, il a été utilisé. C'est Dieu qui agit. Donc, il utilise ça pour qu'on voit qu'il est, lui, il est tout puissant, qu'il est vraiment tout puissant doublement parce qu'il arrive à se manifester à travers quelque chose de petit. Deuxièmement, parce qu'il arrive à vaincre les choses grandes qui semblent trop grandes pour nous. Donc c'est pourquoi Dieu va toujours utiliser la petitesse et la grandeur en même temps. Toujours, afin que sa gloire soit clairement manifestée, sa toute puissance. Deuxième chose, Dieu va utiliser la petitesse pour atteindre les humains dans leur plus basse faiblesse. Il va utiliser la petitesse pour cela. Pour les atteindre au plus bas niveau. Il va nous rabaisser. Comme je vous l'ai dit, certains chrétiens vont se retrouver injustement en prison parce qu'il faut parler aux prisonniers. Certains vont se retrouver dans des hôpitaux parce qu'il faut parler à un voisin de chambre. Donc, il va utiliser les circonstances qui nous rabaissent pour atteindre les plus basses faiblesses de l'homme. Donc, pour cela, il faut que Dieu lui-même se rabaisse. Mais il va se rabaisser comment? À travers un autre humain qui est à lui. C'est ce qu'il va faire. Comment un méchant soldat connaîtra-t-il Dieu s'il a toujours en face de lui d'autres soldats méchants qu'il tue, avec qui il se bat? Il va connaître Dieu le jour où il aura un enfant de Dieu face à lui qui va être humble. Comme ce commandant en Érythrée qui a malmené un chrétien parce qu'il voulait que ce chrétien-là, ce petit de 15 ans, il voulait que ce chrétien-là de 15 ans réunit Dieu. Alors on lui a donné des solides coups dans les côtes, notamment par son voisin prisonnier. Et le petit pleurait. Mais la nuit, les chaînes qui étaient grosses ont été brisées. Le petit n'a pas fui. Quand le gardien est venu, il a vu les chaînes cassées. Il a amené le petit auprès du chef, du commandant. Quelqu'un est entré à casser, mais quelqu'un est entré à commencer. C'est impossible. Ils ont posé la question au petit, mais comment ça a été cassé? Il dit, je ne sais pas. Le commandant dit, ton Dieu est réel. Parce que ces chaînes-là, ce n'est pas n'importe quelle chaîne. À partir de cet instant-là, le petit n'était plus dans son cachot. Il était toujours en prison, mais il était chargé d'apporter la nourriture aux autres prisonniers. Il était presque libre, mais dans la prison. Parce que le commandant a eu peur. Il a dit, si ces chaînes-là ont été cassées, c'est que son Dieu est puissant. Donc autant ne pas l'affronter. Meekness and majesty. Humilité dans la gloire. Le petit en prison, mais son Dieu puissant. C'est ça, bien-aimé. Daniel dans la fosse aux lions. Les amis de Daniel dans le feu. Voilà. Dieu n'a pas dit, je tue le roi. Non, le roi existe, mais il va voir que moi je suis plus grand que lui. Le feu ne va rien faire. Ensuite, le roi lui-même comprend qu'il a affaire à un véritable Dieu. Là, il ne faut pas blaguer. Parce que ces gens-là n'ont même pas l'odeur de la fumée. C'est ça, bien-aimé. Dieu va montrer la faiblesse pour toucher les gens dans la faiblesse. Ce commandant-là en Érythrée, comment pouvait-il connaître Dieu? Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui s'approche de lui. Mais lui, il est commandant d'une prison. Comment on va s'approcher de lui? Au marché? Il fallait qu'il vive près d'un chrétien qui va subir des choses parce qu'il est au milieu des mauvais. C'est comme ça. Mais c'est permis par Dieu pour que les gens connaissent Dieu. Donc Dieu va se rabaisser parce qu'il veut atteindre toutes les parties de l'homme. Il y a des gens qui comptent sur leur force. Dieu va se rabaisser parce qu'il va leur montrer que leur force ne va pas changer les gens. Et ne vont pas leur donner la victoire sur lui-même. Mais ce n'est pas en les frappant aussi, parce que l'idée des gens, c'est quoi? C'est que pour que Dieu, achève quelqu'un qui compte sur sa force, Dieu doit utiliser une force aussi pour frapper la personne. Non, la personne va se dire quoi? Eh bien, ma force a été vaincue par une force supérieure. Moi aussi, je vais aller encore chercher une autre force supérieure. Non, il faut que la personne, avec sa force, il se rend compte que sa force est inutile. Finalement, il est touché par quelque chose d'étrange, l'amour. Et il est brisé. Mais si quelqu'un se dit, ben, on m'a tapé, on a été plus fort que moi, donc je vais aller encore m'entraîner pour être plus fort. Donc il n'a pas été libéré. Alors, Dieu va permettre que le chrétien soit auprès de lui. Quand lui tape, le chrétien ne répond pas. Mais il se rend compte finalement que la force qu'il a utilisée n'a pas donné la colère au chrétien. Le chrétien l'a aimé, l'a aidé. Bien aimé. Et là, les gens se posent des questions. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Donc Dieu va utiliser tout ça pour toucher toutes les dimensions de la faiblesse humaine. Il va nous rendre faibles pour cela. Et troisièmement, parce que Dieu est aussi humble. Il est simple, doux de cœur. Et il va vouloir que nous soyons comme lui, comme Jésus. Jésus a lavé les pieds des disciples. Dieu n'utilise pas sa puissance pour prouver, non, c'est déjà glorieux, c'est suffisant. Il n'a pas besoin lui-même de s'affirmer.
ce qu'il est, ça rayonne tout seul. Et ça se voit qu'il est glorieux. Il va vouloir aussi que nous, on se comporte de la même manière. Qu'on ne cherche pas à s'affirmer, à dire « Notre Dieu est grand parce qu'il a permis que j'ai telle somme d'argent. Notre Dieu est grand, il a permis que je sois guéri. » Que des témoignages de ce genre-là, non. Dieu voudra qu'on réalise qu'il est grand alors qu'on est en prison, comme Saul, comme Paul et Barnabas. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 16, ils étaient dans la prison intérieure, ils ont glorifié Dieu. Ils savaient que leur Dieu est Dieu, quelles que soient les circonstances, la prison s'est brisée. Voilà. Mais ils n'ont pas glorifié Dieu alors qu'ils étaient en position financière élevée. Non, ils étaient en prison intérieure, la prison difficile. Et Dieu veut qu'on ait cette nature-là. Et Dieu va utiliser la faiblesse pour surprendre les forces des ténèbres. C'est écrit dans Éphésiens 3:10. Dieu va montrer aux forces des ténèbres sa sagesse en utilisant l'Église. Parce que l'Église, c'est composé de quoi ? Des humains faibles. Mais Dieu va se servir d'eux pour vaincre les forces des ténèbres très puissantes au vu des humains. C'est cela. Et il va utiliser une apparente faiblesse à travers nous, à travers les circonstances de la vie, pour prouver que lui, il est grand face à ces forces-là. Et Dieu va utiliser ça aussi, la faiblesse, pour que nous puissions sortir toute la nature de Dieu qui est caché en nous. Lorsqu'on a reçu Christ, Christ est venu en nous, mais nous ne sortons pas toujours sa nature. Pourquoi ? Parce que nous retrouvons la logique qu'on avait avant, la logique de rivalité, la logique de puissance, la logique d'être premier, la logique d'être fort, la logique de vaincre par son intelligence. Et ça empêche Christ de s'exprimer. Alors Dieu va nous rabaisser afin que Christ s'exprime dans l'humilité, l'amour, la paix, la foi, la confiance. Tout cela va sortir dans ces moments-là où on est rabaissé. Et c'est là que la nature de Dieu sort pleinement et les gens voient. Et seule la nature de Dieu peut toucher les cœurs des gens. Et les gens sont touchés, ils sont changés, bien-aimés. Dieu va vouloir sortir ce qui est caché au fond, sa vraie nature. Je suis en train de lire un livre sur la persécution en URSS dans les années 70, bien-aimés. C'est pour vous montrer que Jésus est vraiment réel. Je vais en parler pour qu'on le sache, il est vraiment réel et il agit puissamment et les forces des ténèbres le savent. L'homme qui a écrit le livre, lui-même, il faisait partie de la police spéciale, la police secrète, chargée d'éliminer les chrétiens. Il fallait que la foi en Christ soit annihilée en URSS. Il fallait détruire la foi en Christ. Donc pour cela, il fallait décourager fortement les chrétiens. On a envoyé des espions au milieu des chrétiens. Dès qu'ils avaient une réunion, 15 personnes, 16 personnes, réunion cachée, cette police-là était prévenue par l'espion qui faisait aussi partie de la réunion. Et ils venaient en grande quantité. 8 ou 10, des gens, des judokas, des boxeurs, tous ces policiers-là. Le mot d'ordre, c'était massacré. Il fallait défigurer. Il fallait que le chrétien qui sort de cette réunion-là soit découragé de se réunir encore. Ces gens-là, ils venaient massacrer. Que tu sois femme, vieux, jeune, ils massacraient. Et les chrétiens disaient, mais pourquoi ? Mais plus cette police secrète faisait ça, plus le nombre de chrétiens augmentait. Nous, on ne savait pas. Bon, nous, moi, j'étais peut-être même pas né. Mais les gens qui étaient dans dans l'Occident ne savaient pas que le christianisme était fort en URSS. Ils croyaient que c'était éliminé. Or, ça se passait tout ça dans les années 70-69. Les gens en Occident pensaient que ben, là-bas, c'est fini, il n'y a plus de chrétiens. Or, rien. Il y avait des chrétiens. Ça montre la puissance de Dieu. Peut-être qu'il y avait même des chrétiens plus actifs que là où c'était libre. Mais alors que les gens à l'extérieur, comme ils n'entraient pas là-bas, ils se disaient, ça y est, en URSS, il n'y a plus de chrétiens. Mais moi, je lis les livres des années 69. Il y en avait plein, à tel point que cette police secrète était chargée d'éliminer. Et ils ne comprenaient pas comment les jeunes russes commençaient à se convertir en grande quantité. Alors qu'ici, en Occident, c'était clair, là-bas, il n'y a plus de foi. Non, l'Église était forte là-bas. Dans cette faiblesse, dans cette persécution. Un jour, ils sont arrivés dans une réunion, ils ont vu une fille. Il y avait parmi les gens une fille. Une fille comme un ange. Eux-mêmes, ils disent qu'elle était tellement belle. Rien qu'avec un bras, un des policiers l'a envoyé au mur. Elle a cogné la tête au mur. K.O. Et après, ils ont pris son nom. Ils ont dit, on veut plus. Qu'est-ce que toi, tu perds ton temps dans ces trucs-là? Bien-aimé, deuxième réunion. Eux, ils appellent ça des raids, ces policiers-là. Ils ont fait un raid encore sur une réunion des chrétiens. Natacha était encore là. Alors, le chef a pris Natacha. Il a tapé tellement que la peau est partie. Il a dit, maintenant tu vas comprendre qu'il ne faut plus venir dans ces réunions-là. Troisième raid, Natacha est encore là, bien-aimée. Alors, un de ceux-là a dit, bon, là maintenant, je vais l'achever comme il faut. Pendant qu'il s'est déplacé pour aller frapper Natacha, un d'entre eux, le plus voyou, il se met au milieu et dit, tu ne toucheras pas à elle. Oh, mais pourquoi? Tu veux la prendre? Il dit, non, cette fille a quelque chose que nous, on n'a pas. Tu ne touches pas. Celui qui va toucher a un problème avec moi. Bien-aimé, ça, c'est la puissance de Dieu. Ils disent à la fille, allez, va-t'en. Même le chef lui-même a eu peur de cette fille. Il a dit, mais ce n'est pas normal. La manière dont je l'ai frappée, s'il vient, il y a un problème. Il y a un problème. Et comment se fait-il que ce chef-là, c'est lui qui écrit le livre parce qu'après il a fouillé l'URSS. À la nage, ça c'est encore une autre histoire, nager plus de 7 heures dans l'eau glacée. Le miracle de Dieu. Et comment il a arrêté un jour? Ils sont partis dans un raid. Ils entrent là-bas. Ils commencent à taper parce qu'il fallait éliminer rapidement, taper rapidement, parce que si ça traînait, il serait pas. Il fallait donner des coups vraiment sérieux pour que ça nuise complètement à la personne qui devienne même handicapée. Quoi. Voilà. Ils entrent. Ils commencent à taper. Et il voit une vieille. Il prend sa matraque. Une matraque en acier enrobée de caoutchouc. Il dit, bon, cette vieille-là va avoir pour son compte. Et quand il s'approche pour frapper la vieille, il entend la vieille prier. Père, pardonne-lui à ce jeune homme-là et aide-le à te connaître. Oh, le soldat est devenu fou. Il a dit, quoi? Au lieu de s'inquiéter pour elle-même, elle s'inquiète pour moi. Je vais vraiment la massacrer comme il faut, bien-aimé. Quand il a voulu abattre, il a senti une main qui l'a retenue. À tel point que ça lui a fait mal, quoi. Le poignet, on lui a fait mal. Il a dit, mais quel est le chrétien qui me retient? Là, il regarde, il n'y a personne, mais il est retenu. Bien-aimé, il est sorti. Lui qui avait promis que toute sa vie ne pleurerait pas, il est sorti de cet endroit-là, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Et quand on l'a rappelé pour faire les raids, il a dit, chef, je ne peux plus. Voilà. On lui a mis toutes sortes de pressions, il a dit, je ne peux pas. Et c'était arrêté pour ce jeune homme-là. Alors, vous vous imaginez, sans le sacrifice des chrétiens, est-ce que cet homme-là aurait connu Dieu? Non. Dieu va utiliser nos sacrifices parce qu'il veut atteindre des gens qu'on ne peut atteindre qu'à travers cela. Il faut que ces gens voient que leur force est nulle. Il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Eh bien, Dieu va fatiguer les gens. Mais comment il va fatiguer les gens? Il faut bien qu'il fasse un travail. Mais leur travail, c'est quoi? C'est nous faire du mal. Donc Dieu va nous utiliser pour fatiguer les gens. Les gens vont nous faire du mal, mais ils ne vont pas nous achever. Alors ils vont se poser la question, mais comment se fait-il qu'on ne les achève pas? Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils sont suffisamment mûrs pour rencontrer Dieu. Donc ne nous décourageons pas. Ne considérons pas que nous sommes dans la défaite lorsque nous subissons ces choses. Ne considérons pas que nous sommes dans la défaite lorsque nos prières ne semblent pas exaucées. Le travail est en train de se faire. Acceptons cette position d'humilité, d'humiliation. Et ce garçon-là, Sergueï, quand il a fouillé l'URSS, il est mort un an après d'une balle. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais en un an et demi, il a parlé dans les radios, il a parlé dans les églises. Et beaucoup, beaucoup de chrétiens ont été sauvés. Et de Russes ont été sauvés. Il a été peut-être beaucoup plus efficace que plusieurs églises réunies, lui tout seul. Parce qu'il a reçu une vraie transformation. Il a vu la puissance de Jésus qui peut toucher un cœur. Cette vieille dame-là, au lieu de prier pour elle-même, elle priait pour son assassin bien-aimé. Alors bien-aimé, combien de fois tu te fâches lorsqu'on te fait du mal par les autres? Combien de fois tu les détestes? Combien de fois tu souhaites le mal? Ce n'est pas bon. Nous ne sommes pas appelés à ça. Nous sommes appelés à bénir. Même si nous pensons que les autres sont dans l'erreur. Même si nous pensons que les autres se comportent mal envers nous, nous devons les bénir. C'est ça la nature de Christ. Et il permet ça pour que cette nature sorte. Parce que si nous sommes avec les bons, la nature de bonté de Jésus ne va pas sortir. Parce que même les voleurs sont gentils avec les autres voleurs. Parce qu'ils sont amis. Dieu va permettre qu'on nous massacre, qu'on nous maltraite, qu'on parle du mal de nous, qu'on nous critique injustement. Dans quel but ? Pour que nous, nous bénissions les gens afin de sortir la nature vraiment de Dieu. C'est ça, bien-aimé. Pour que nous, nous prions pour eux. C'est ainsi que nous sommes vraiment fils de Dieu. C'est écrit dans Matthieu 5. Si vous vous faites du bien à ceux qui vous font du mal, vous serez appelés vraiment fils de Dieu. C'est ça la nature de Christ. Épousons cela, bien-aimé, et nous verrons la gloire de Dieu. Comprenons le fonctionnement de Dieu et nous serons vraiment heureux. Que Dieu soit béni. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions de nous rappeler que tu fonctionnes dans la simplicité, dans l'humilité et dans la gloire en même temps, et que nous ne devons pas nous inquiéter dans le, lorsque les positions d'humiliation nous surprennent, s'abattent sur nous. Après un examen de soi-même, à la lumière de ta parole et de ton esprit, si nous nous rendons compte que nous n'avons rien à nous reprocher, Seigneur, que nous te laissions achever ton œuvre en nous, même si nous nous rendons compte que nous avons fait des erreurs, que nous ayons le courage de demander pardon et de te laisser faire après. Comme David, il savait que c'est à cause de ses erreurs, mais sachant qu'il avait demandé pardon, il s'attendait à la gloire après l'humiliation, Seigneur. Ô Père éternel, aide-nous à te ressembler. Libère-nous du fonctionnement de l'homme normal qui répond au mal par le mal, qui a des limites dans sa bonté. Que notre bonté soit sans limite. Que notre amour soit sans limite, Seigneur. Que notre espérance en toi soit sans limite. Quand je pense aux chrétiens de l'Est qui ont connu 60 ans de persécution forte, mais l'Église était toujours bouillonnante. Beaucoup de pasteurs sont morts. Mais ton Église était toujours vivante, Seigneur. Ô Éternel, aide-nous, Seigneur, à accepter cette double vie d'humilité et de gloire, de simplicité et de majesté, de docilité et de puissance, dans le nom de Jésus-Christ. Lui qui a fonctionné lui-même comme cela, lui qui n'est pas parti se moquer de ceux qui l'ont crucifié, étant ressuscité. Il a voulu que cela se fasse par les disciples, dans la simplicité. Ô Éternel, béni soit ton nom, toi qui nous apprends ces choses, afin que nous demeurions dans ta parole, que nous ne soyons pas jaloux des autres qui semblent réussir mieux que nous, mais que nous continuions à marcher toujours dans l'humilité. Ô, comme toi tu as marché, Jésus, béni soit ton nom. J'entends ta douce voix.